Bonjour. Alors, j'ai toujours à cœur, en fait, quand c'est possible, de parler de choses où le Seigneur me travaille moi-même. C'est bien, ça me met la pression pour me mettre devant le Seigneur à chaque fois et dire, bah, Seigneur, faut que tu fasses quelque chose en moi et comme ça, je peux le partager aux autres. Ça fait un truc plus vivant. Et là, j'avais à cœur de parler de responsabilité, en fait. Pourquoi? Bah, je voulais témoigner, hein, je suis devenu responsable au boulot, donc, voilà, ça travaille, ça cogite, et puis on se penche un petit peu dans la Bible, et puis on voit un peu ce qu'on peut en retirer pour nous. Et j'avais rien de très précis, j'avais juste cette idée-là, et je me dis, mince, Seigneur, je vais en parler, mais j'ai vraiment rien de rien, quoi. Est-ce que je m'entête pas un peu dans mon idée? Et Micheline, elle m'a donné un passage quand elle est venue la fois dernière. Je crois que c'était Pascal qui prêchait sur Jean 10. Enfin, il y a eu un ensemble, et je me suis dit, bon, c'est bon, maintenant j'ai tout, je peux y aller. Donc voilà, la responsabilité. Alors, ce n'est pas une leçon que je vous donne, c'est une leçon que moi je reçois pour moi-même et je vous la partage. D'accord? Je ne suis pas là pour vous donner une leçon, c'est pas. Voilà. Donc, le premier passage, c'est Jean chapitre 10. Vous le connaissez tous. On va lire les 15 premiers versets. En vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui y monte par ailleurs, est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le portier lui ouvre, et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent, et il les conduit dehors. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles, et les brebis le suivent, parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivront point un étranger, mais elles fuiront loin de lui. Parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus leur dit cette parabole, mais ils ne comprirent pas de quoi il leur parlait. Jésus leur dit encore, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands, mais les brebis ne les ont point écoutés. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira et il trouvera des pâturages. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles l'aient en abondance. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Mais le mercenaire, qui n'est pas le berger et à qui n'appartiennent pas les brebis, voit venir le loup, abandonne les brebis et prend la fuite. Et le loup les ravit et les disperse. Le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire et qu'il ne se met point en peine des brebis. Je suis le bon berger. Je connais mes brebis et elles me connaissent. Comme le Père me connaît, et comme je connais le Père. Et je donne ma vie pour mes brebis. Je vais m'arrêter là pour ce qui m'intéresse. On va pas forcément faire toute l'étude de ce paragraphe-là, mais ce qui m'intéressait, c'était le rôle de berger, en fait. Donc pas dans le sens où il conduit les brebis, voilà, mais dans le sens où il est responsable des brebis. Vous dites le titre, c'est responsabilité, donc on va parler de ça. Le bon berger, c'est celui qui est responsable des brebis. C'est lui qui s'en occupe. Et on voit que Jésus, il fait la différence avec le voleur, avec les brigands, qui ne sont pas responsables des brebis, qui sont là juste pour en profiter, on va dire, qui sont là pour voler, qui sont là pour égorger, détruire. Jésus le dit lui-même. Donc, qu'est-ce qui caractérise le bon berger, comme nous le dit Jésus? Il entre par la porte, on le voit ça au verset 2 et 3, il entre par la porte et le portier lui ouvre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a toute légitimité pour venir chercher les brebis. Il passe par la voie officielle, par la porte officielle, alors que le voleur, qui lui, pas tout à fait légitime pour s'occuper des brebis, il passe par la fenêtre, il passe par le toit, il passe par ailleurs, mais pas par la porte. Le diable, il emploie des moyens détournés. Il utilise le mensonge pour faire tomber les gens, mais il ne vient pas par la vérité. S'il utilise la vérité, c'est un petit morceau, mais c'est pour ce qui l'arrange. Il prend le chemin qui va à la bergerie, mais après, il ne peut pas rentrer par la porte. Le portier ne le laissera pas rentrer. Et le Père Noël, il passe par la cheminée. Alors, est-ce qu'il est légitime? J'ai pensé à ça en regardant ça, en lisant ça. On est des enfants de lumière. On doit rester dans la lumière, on doit rester dans la vérité et pas essayer d'utiliser des artifices pour sauver les gens. On n'est pas là pour apprendre des techniques spéciales pour sauver les gens. Bien sûr, il y a du bon sens, il y a des choses qu'il faut faire dans un certain ordre, mais on a toute légitimité pour sauver les gens autour de nous. Alors je dis sauver les gens, c'est pas nous qui sauvons les gens, mais on les amène devant le Seigneur et on a toute la légitimité pour les amener devant le Seigneur. Il n'y a personne d'autre qui l'a, cette légitimité-là. Il n'y a que le berger qui peut venir chercher les brebis. Et ça veut dire que si le berger ne vient pas chercher les brebis, et ben elles restent là où elles sont et personne ne s'en occupe. Les brebis entendent sa voix et il les appelle par leur nom. Ceux qui m'appartiennent, je les connais. Je suis responsable de ma famille, je les connais. Quand on est responsable du groupe d'ados ou du groupe de jeunes, on connaît les ados et les jeunes. On les connaît par leur nom. Le voleur, lui, il ne les connaît pas. Et il n'est pas connu non plus des brebis, on le voit après. Les brebis, elles appartiennent à Jésus. Ça, je trouve que c'est une belle phrase, hein, dans un sens. C'est pas nous qui faisons tout, c'est elles lui appartiennent déjà, en fait. C'est, finalement, quand on se tourne vers le Seigneur, quand on se convertit, c'est juste une concrétisation de ce qui était déjà là, en fait. Elles appartenaient déjà au Seigneur, il est juste venu les chercher. Et Jésus dit à la fin de sa vie, je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donné. Alors vous imaginez bien qu'on ne va pas juste parler de Jésus qui est responsable des brebis, mais qu'on parle de nous qui sommes responsables aussi. Il ne faut pas que tout le monde parte en laissant juste les trois anciens ici. On est tous responsables des brebis. On a tous des gens que le Seigneur a mis sur notre chemin à un moment donné. Et si nous, on ne fait pas le travail, alors qui le fera, puisqu'on est légitime pour les sauver, pour les amener au Seigneur? Donc, il conduit le berger, ce qu'il fait, c'est qu'il les conduit dehors, il les amène à la liberté. C'est ce qu'on est censé faire avec les gens autour de nous. Il marche devant ses brebis et elles le suivent. Il leur montre l'exemple à suivre. Alors forcément, le voleur, on ne peut pas dire ça de lui, il ne peut pas le prendre comme exemple. Celui qui est responsable des autres, il doit donner l'exemple. Il y a plein de versets qui appuient ça. Jésus lui-même, il a dit dans Jean 13, « Car je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. » Dans 1 Pierre 2, on lit « C'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces. » Un petit dernier pour la route. « Marchez dans la charité, à l'exemple de Christ, ou marchez dans l'amour, à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. » On entend souvent dire des hommes politiques en général qu'il faut être irréprochable, il faut faire des lois sur la transparence, sur beaucoup de choses. Et la plupart du temps, ceux qui font ça sont les moins transparents, où on s'aperçoit quelques années après que voilà, ils avaient des choses à cacher, des comptes en Suisse ou je ne sais pas où. On les critique facilement, n'est-ce pas? Est-ce que nous, on est transparents? Est-ce que nous, on fait exactement ce qu'on leur réclame? Souvent, les gens, ils sont les premiers accusés, je vois dans les collègues autour, hein, qui, oh, les gens, t'as vu, ils trichent, ils font ceci, cela. Et puis après, quand ça glisse sur des sujets comme les impôts, comme le travail, oh, ouais, mais bon, hey, eux, ils font ça, nous, on peut se permettre de faire ça. Hein. Voilà. Et hop, moi aussi, je le fais, en fait, mais je critique les autres. Là, Jésus, il nous dit, le berger, c'est un exemple. Les brebis, elles doivent pouvoir le suivre. Donc, c'est-à-dire que moi, je dois être un exemple si je veux amener des gens au salut. Faut que les gens puissent me regarder et dire « Bah ouais, je veux faire comme lui. » Est-ce que c'est le cas? Compliqué, hein. Après, c'est sûr qu'on fait des erreurs et que le Seigneur les rattrape, mais il ne faut pas toujours se réfugier derrière le Seigneur et dire « Bah, le Seigneur, il fera, hein, même avec moi qui suis imparfait. » Le Seigneur, il nous demande d'être des exemples. Il ne nous demande pas d'être imparfait. Le but du berger, il est indiqué... Je l'ai perdu. Voilà, au verset 10. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles l'aient en abondance. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Si on repense à nos responsables terrestres, est-ce qu'ils sont là pour qu'on ait la vie en abondance? C'est dur à dire, hein. Non, c'est pas dur à dire, je connais vos réponses, je vois des regards. Mais nous, si on est responsable des gens autour de nous, c'est quoi notre but? Est-ce que c'est de faire du chiffre? Dire, moi, j'en ai sauvé 10, je suis content, c'est bien. C'est bien, c'est bien d'être content. Les anges aussi sont contents quand il y a des gens qui sont sauvés. Mais est-ce que le but, c'est le bonheur des autres? C'est la vie en abondance. Et la vie en abondance, c'est pas juste leur apporter, je sais pas moi, de l'argent, du bien-être physique. C'est la vie dont Jésus parle, la vie spirituelle. C'est important de garder ça en tête aussi, parce qu'on peut tomber dans le piège de se dire, ben, je suis responsable de donner des habits, de donner à manger. On pense aux banques vestimentaires. Et c'est important, je ne dis pas le contraire. Mais ce n'est pas ça que Jésus nous demande à la base. Il nous demande d'apporter la vie en abondance, la vie spirituelle. Ça, c'est lié de toute façon. On aime les gens, on leur apporte ça parce que c'est normal. On y reviendra après. Mais le but premier, c'est pas d'apporter ça. Sinon, il y a plein d'organisations, plein d'associations dans le monde qui ne sont pas chrétiennes du tout et qui apportent des bonnes choses aux gens. Ça, les autres peuvent le faire. Nous, notre travail, c'est de les amener au Seigneur. Ce passage-là, il se termine avec, enfin, moi je l'ai terminé comme ça, avec le mercenaire qui n'est pas le berger et à qui n'appartiennent pas les brebis. Il voit venir les loups, il abandonne les brebis, il prend la fuite. Et le loup les ravit et les disperse. Alors pourquoi il fait ça? Parce qu'il n'y en a rien à faire des brebis, tout simplement. Et lui, c'est quelque chose qui peut voler. Après, si ça craint pour lui, eh ben, il se sauve, il ira voler ailleurs, c'est pas grave. Jésus, lui, il est le bon berger. Alors, c'est pas dans ce passage-là, mais on peut faire le lien avec le berger qui laisse les 99 brebis pour aller chercher celle qui est perdue. Est-ce qu'on met des moyens comme ça, nous, en œuvre dans nos vies, pour aller chercher les gens? En disant, bon, ben, là, il y a des gens, c'est bien, ils sont au Seigneur, mais je dois aller chercher cette personne-là. Parce que lui, il n'est pas au Seigneur, il faut que je l'amène au Seigneur. Et vous avez lu comme moi, vous savez comment ça se termine. Ça se termine par la mort du berger. Jésus dit, je donne ma vie pour mes brebis. Est-ce qu'on est responsable à ce point-là des autres? Il y a des gens qui ont donné leur vie, des missionnaires qui ont donné leur vie pour amener des gens au Seigneur. Ils l'ont fait concrètement. Donc on voit dans ce passage-là, en fait, toutes les caractéristiques du bon berger responsable, du bon responsable des brebis. Et comme je vous l'ai dit, c'est pas juste Jésus, c'est nous qui sommes responsables des autres. Ça, je pense, il n'y a pas besoin de vous convaincre. Hein. Si nous, on n'amène pas les gens au Seigneur, alors personne ne le fera. C'est notre responsabilité, c'est la première, c'est la principale. Alors, l'idée sur laquelle je veux insister, c'est que Dieu nous rend responsables de notre prochain. Il y a deux grandes implications. Je les aime, et je ne pense plus à moi, mais je pense à elle. Alors notre société, une deuxième idée, notre société est devenue assez procédurière en fait. C'est marqué dans certains pays comme les États-Unis, mais on le voit aussi dans une certaine mesure en France. Dès qu'il y a quelque chose, on fait un procès et il faut trouver quelqu'un qui est responsable. Et on entend la formulation, vous la connaissez comme moi, responsable mais pas coupable. Et donc on arrive à trouver des gens qui sont coupables et d'autres qui sont responsables. Comme ça, on en punit deux. Il y a toujours quelqu'un qui va prendre quelque part. Alors, ça a du bon, ça a du moins bon. C'est pas ça que je vais forcément critiquer. Mais ça veut dire que dans le terme... c'est pour vous illustrer le terme responsable, en fait. Il y en a qui sont jugés responsables par la justice alors qu'ils n'ont rien fait directement. C'est le cas, par exemple, si votre enfant, il est mineur, qui commet un délit. Bon, ben, vous êtes responsable de lui et vous allez... Vous n'êtes pas coupable du délit qu'il a fait, c'est pas vous qui l'avez fait. Mais parce qu'il vous appartient, parce qu'il est sous votre responsabilité, et ben vous répondez de ce qu'il a fait. Et récemment, j'ai eu l'occasion de vivre ça au travail, en fait. J'ai un contractuel que j'ai dû recruter et qui a dû récupérer une base de données sur son ordi à lui. Donc pour travailler, il développe et il avait besoin de faire une copie. Bon, donc il récupère une vieille copie des données et il récupère sur son ordi. Et là, il s'aperçoit au désastre qu'en fait, en même temps qu'il le copiait sur son ordi, il le copiait sur le serveur qui est en production. Et donc, il nous le dit tout de suite, sans problème. Il dit, je crois que j'ai fait une bêtise, donc on va voir. Et ben, on avait tout perdu. C'était le jeudi à 16h et notre sauvegarde, elle datait de 6h du matin. Donc, 10 heures de travail perdu. Une fin de mois où les gens y vont vite parce qu'il faut faire du chiffre et où on leur avait mis bien la pression. Donc j'ai dit bon, j'aurais pu me dire bah écoute, tu vas les voir, tu leur dis que t'as tout perdu et puis tu te débrouilles, hein, zut, c'est toi qui as fait la bêtise après tout. Et pourquoi je pouvais pas? Parce que je suis responsable. Et ça m'a fait bizarre de le vivre comme ça, parce que après on nous a demandé un rapport sur ce qui s'est passé, il a fallu expliquer. Et c'est que c'est pas on nous a demandé, c'est on m'a demandé d'expliquer la situation, d'expliquer ce qu'on allait faire après pour que ça se reproduise plus. Et donc voilà, et je me suis dit, mince, j'ai rien fait moi. J'ai rien fait. Mais parce que vous êtes responsable, vous répondez de ceux qui sont sous votre responsabilité. C'est comme ça avec les enfants, c'est comme ça au travail. Alors, pour vous rassurer, après, il a fait nécessaire. Hein. Il n'y a eu aucun problème, ça n'a pas créé de dispute, au contraire. Il a fait nécessaire pour retrouver un maximum d'informations, pour refaire le déroulé de la journée, et puis qu'on refasse la journée une deuxième fois. Quoi. Un peu comme dans les films où on tourne en boucle. Là, nous, on a refait la deuxième journée. Et, a priori, il n'y a rien de perdu. Mais... Voilà, le principe de responsable mais pas coupable. Lui, il était coupable. Alors bon, coupable, après, il y a eu un raté qu'il n'a pas forcément maîtrisé, il ne l'a pas voulu. Mais il a fait la bêtise dans un sens, et moi, j'étais responsable de cette bêtise-là, alors que je n'avais rien fait. Alors, ça va peut-être vous étonner, mais ce principe-là, il est parfaitement biblique. Qu'est-ce qu'il nous raconte, Michael, enfin ? Alors, vous venez avec moi dans Ézéchiel, chapitre 33. Ceux qui connaissent le passage... Ézéchiel, chapitre 33, les 9 premiers versets. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, parle aux enfants de ton peuple et dis-leur. Lorsque je fais venir l'épée sur un pays, et que le peuple du pays prend dans son sein un homme et l'établit comme sentinelle, si cet homme voit venir l'épée sur le pays, sonne de la trompette et avertit le peuple, et si celui qui entend le son de la trompette ne se laisse pas avertir, et que l'épée vienne le surprendre, son sang sera sur sa tête. Il a entendu le son de la trompette, il ne s'est pas laissé avertir, son sang sera sur lui. S'il se laisse avertir, il sauvera son âme. Si la sentinelle voit l'épée et ne sonne pas de la trompette, si le peuple n'est pas averti et que l'épée vienne à enlever à quelqu'un la vie, celui-ci périra à cause de son iniquité. Mais je redemanderai son sang à la sentinelle. Il est là notre principe, responsable mais pas coupable. Et toi, fils de l'homme, je t'ai établi comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu dois écouter la parole qui sort de ma bouche et les avertir de ma part. Quand je dis aux méchants, méchant, tu mourras, si tu ne parles pas pour détourner le méchant de sa voie, ce méchant mourra dans son iniquité, et je te redemanderai son sang. Mais si tu avertis le méchant pour le détourner de sa voie et qu'il ne s'en détourne pas, il mourra dans son iniquité, et toi, tu sauveras ton âme. Est-ce que j'ai besoin de vous dire qu'on a ce rôle-là aussi ? Je pense pas. Hein. Là, il le parle à Ézéchiel, il dit que c'est un prophète. Mais quand on lit « Je t'ai établi comme sentinelle sur la maison d'Israël », tu dois écouter la parole qui sort de ma bouche. Vous voulez que ça s'adresse à qui, à part nous ? Puisque les gens ne connaissent pas l'Éternel. Tu dois écouter la parole qui sort de ma bouche et les avertir de ma part. Donc si le méchant meurt, c'est bien à cause de sa culpabilité. Ce n'est pas de votre faute à vous directement. Ce n'est pas vous qui avez commis les péchés. Mais s'il n'a pas été averti du jugement qu'il encourait, alors celui qui n'a pas averti est responsable de ça et Dieu lui demandera des comptes. C'est ce qu'on lit ici. Alors on ne sait pas exactement... Et puis, c'est pas, dans un sens, ce n'est pas notre problème, mais on ne sait pas exactement ce qu'on risque quand on n'avertit pas. Mais je pense qu'il ne faut pas jouer avec l'Éternel. D'accord ? Et je redemanderai son sang à la sentinelle, on ne sait pas ce que ça implique derrière en termes de jugement. On dit on est sauvé, oui. Alors, moi, j'ai toujours ce passage dans 1 Corinthiens 3, je crois. Ceux qui sont sauvés avec une couronne ou avec un trésor en plus. Voilà, il y a des degrés quand même. Il y a quelque chose et il y a une justice de la part de Dieu. Et donc là, il y a une peine quand même à celui qui n'a pas averti. Donc, c'est ce qu'on avait vu avec le berger. En fait, notre responsabilité à nous, c'est d'annoncer le jugement, d'annoncer le salut aussi. Mais là, ce que dit Ézéchiel 33, c'est pas d'annoncer que Dieu, il est bon, qu'il peut les sauver, qu'il les aime quand même. C'est d'abord qu'ils vont mourir. Et ça aussi, c'est important pour nous de le garder. Notre responsabilité, c'est ça. C'est de dire aux gens, vous mourrez. Vous allez mourir. Vous êtes déjà mort, en fait. Alors, ce n'est pas une question de faire peur aux gens, c'est une question de leur dire simplement ce qui va arriver. S'il y a un incendie, vous dites bien aux gens, au feu, sauvez-vous, on va tous mourir. Voilà, les gens, ils crient et ça se bouge. Vous dites pas, ouais, je ne vais pas leur faire peur non plus, on n'est pas là pour ça. Vous inquiétez pas, les pompiers arrivent. Bon, je pense que de toute façon, si vous dites les pompiers arrivent, c'est que les gens, ils vont faire le lien et ils vont paniquer. Annoncer l'évangile, c'est notre responsabilité, c'est un devoir, c'est pas un droit. On a tendance à insister aussi sur toutes les bonnes choses que le Seigneur il nous donne et on oublie tout ce qui est impliqué par ça, en fait, tout ce qui est notre devoir de faire. La dernière, alors j'ai pas fait toutes les responsabilités possibles, il y en a plein hein, dans la Bible. On aurait pu, pour la fête des pères, parler de la responsabilité du père avec ses enfants, mais j'ai pris juste trois points comme ça. Je vous encourage à lire dans la Bible. Là, on en a fait que deux, j'attaque le troisième. Hein. Si vous dites, c'était quoi le troisième ? Lisez dans la Bible et mettez-vous à la place à chaque fois dans les situations et dites-vous, ben là, un tel, il est responsable de ça, mais moi, dans cette affaire-là, c'est quoi ma responsabilité ? Vous allez voir qu'on en a énormément. On les prend à la légère, mais on en a énormément. Alors, le dernier point sur lequel je voulais insister, c'est pareil, c'est du vécu dans les dernières semaines, là. J'ai croisé un SDF à Lille. Il n'y a pas de doute sur le fait qu'il soit SDF, ce monsieur. Je le vois dormir dehors, puis quand on arrive tôt le matin, il dort encore. Puis il y a des gens, voilà, ils sont... On comprend qu'ils sont SDF. Il y en a où on peut se poser la question, parce qu'on les voit finalement pas trop mal habillés, des belles chaussures, et il y a... Bon. Et en fait, ce monsieur, le Seigneur me l'a mis à cœur. Alors, vous savez, à Lille, pour ceux qui vont à Lille, il y en a aussi sur Hasbrouck un peu moins, on en voit énormément, les gens. Je ne vais pas dire à chaque coin de rue, mais je peux quasiment, si je vois mon trajet, sur chaque portion, il y a quelqu'un qui réclame quelque chose sur le trajet. Que ça soit le matin, que ça soit le soir, il y en a plein qui font ça. Pour une partie, c'est un trafic organisé. Hein. Il y a tout un trafic, Pascal, il connaît ça sur... il n'est pas là, mais il peut confirmer sur Lille. Et ce n'est pas facile de savoir où sont les besoins. Et ça m'a toujours fait mal au cœur de passer à côté des gens et de me dire bah non, je ne lui donne pas, je ne peux pas donner. De toute façon, si je donne à chaque personne que je croise, il va falloir que je travaille plus. Voilà. Il y a tellement de personnes, tellement de besoins. Et il y a des gens qu'on voit qui sont en train de boire. On se dit, mais si je lui donne de l'argent, il va en faire quoi ? Il y a plein de situations et on a tendance en fait à se fermer complètement à ça, à dire bah, je peux pas donner et puis c'est tout quoi. Il y a des associations, il y a des choses et j'ai toujours prié dans mon cœur, Seigneur, que je me referme pas complètement. Je peux pas donner à tout le monde, c'est sûr, mais je veux que tu mettes des situations dans mon cœur et du coup je remercie Seigneur parce qu'à chaque fois que je passe devant des gens comme ça, je dis bonjour normalement. Déjà c'est quelque chose, les gens on les regarde même pas. Mais j'ai un pincement au cœur de ne pas pouvoir donner. Et récemment, donc, j'ai vu ce monsieur qui dort sur les bancs en face de la gare. Il ne demande rien. C'est différent par rapport aux autres. Il ne demande rien, mais on voit qu'il a besoin de tout. Alors, j'ai eu vraiment quelque chose pour ce monsieur-là. Et en même temps, je ne suis pas allé le voir. Et pourtant, je savais que ça venait du Seigneur. Vous savez, quand le Seigneur vous met quelqu'un sur le cœur... Il appuie d'une manière où vous savez que ce n'est pas vous qui vous faites une idée. Vous savez qu'il faut y aller et quand vous ne le faites pas, ça ne va pas. Parce que le Seigneur dit, celui-là, tu vas le voir. Et donc j'ai longtemps hésité et il a pas l'air très aimable. Vous savez, on est comme ça, hein, on se trouve des trucs, il n'est pas aimable. Et puis des fois je le vois en train de boire, alors du coup si je vais et puis que finalement il se met en colère ou je ne sais pas moi non plus ce qu'il peut dire, ce qu'il peut faire. Et on se fabrique des excuses comme ça dans la tête. Il y a des choses vraies, on ne peut pas aller voir n'importe qui, n'importe comment. Mais voilà, j'étais pas allé le voir. Et Micheline a parlé de Matthieu 25. On ne va pas forcément relire tout le chapitre, juste les versets qui sont intéressants. Matthieu 25. Il y a le temps, ouais. À partir du verset 31. Vous le connaissez aussi, ce passage, hein, c'est que des chapitres connus que j'ai pris ce matin. « Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. » Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger, vous m'avez recueilli. J'étais nu, vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez rendu visite. J'étais en prison et vous êtes venu vers moi. » Les justes répondront. Donc ils répondent à Dieu, hein. Lui répondront. Seigneur, quand t'avons-nous vu avoir faim, ou t'avons-nous donné à manger, ou avoir soif et t'avons-nous donné à boire? Quand t'avons-nous vu étranger et t'avons-nous recueilli, ou nu et t'avons-nous vêtu? Quand nous t'avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous allés vers toi? Finalement, même les justes ne comprennent pas. Ils disent, de quoi ils me parlent? Je l'ai pas vu, Jésus. Et le roi leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous de moi, maudits. Allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Car j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais étranger et vous ne m'avez pas recueilli. J'étais nu et vous ne m'avez pas vêtu. J'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas rendu visite. Ils répondront aussi, Seigneur, quand avons-nous vu ayant faim ou ayant soif ou étranger ou nu ou malade ou en prison et ne t'avons-nous pas assisté? Et il leur répondra, je vous l'ai dit en vérité, toutes les fois que vous n'avez pas fait ces choses à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne les avez pas faites. Et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. Il est rude, hein, ce passage. C'est notre responsabilité d'aller vers les gens, de les aider. Jésus, il compare les gens comme ça, qui ont des besoins, à lui-même, en fait, dans ce passage. Il dit, si vous ne l'avez pas fait à ces gens, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. Si vous l'avez fait à ces gens-là, c'est à moi que vous l'avez fait. Donc j'ai longtemps hésité à aller voir ce monsieur, et il y a eu ce passage qui arrivait, et en même temps, un soir où je me suis dit, et si je ne le revois plus jamais? On ne sait pas, les gens, ils viennent dans l'île, on les voit quelques fois, et puis ils disparaissent. Et je me suis dit, mince, le Seigneur, il m'a dit d'aller le voir, j'ai dit non, et si j'apprenais dans les journaux, au travail, que ce monsieur est décédé, on l'a retrouvé comme ça? Je ne peux pas. Il faut que j'aille le voir, en fait. Seigneur, donne-moi une nouvelle occasion. Le prends pas maintenant, le déplace pas maintenant, faut que je le voie. Je pensais aussi à cette chanson de Phil Collins, Another Day in Paradise. Je ne sais pas si vous la connaissez. J'aurais dû la traduire avant, mais bon. En anglais, ça donne « She calls out to the man on the street, Sir, can you help me? It's cold and I have nowhere to sleep. » Is there somewhere you can tell me? He walks on, doesn't look back. He pretends he can't hear her. Starts to whistle as he crosses the street. Seems embarrassed to be there. Donc une personne qui est dans la rue, qui demande à quelqu'un de l'aide, qui dit il fait froid, j'ai personne où dormir, est-ce que vous pouvez m'indiquer quelqu'un? Et la personne continue à marcher, ne se retourne pas. Il prétend qu'il ne peut pas l'entendre. Il commence à siffler et il traverse la rue. Comme s'il était embarrassé d'être là. C'est le comportement que beaucoup de gens ont, en fait. Hein. Quand il y a ces gens, les gens, ils zappent, ils partent sur l'autre voie, et puis c'est tout, quoi. Ils s'embêtent pas. Et tous ces aimants-là, je me suis dit, Seigneur, il faut à tout prix que je le voie. Ça met une pression dans le cœur de dire, Seigneur, je suis désolé, j'ai désobéi, mais laisse-moi une autre chance. Et du coup, j'ai sauté sur la première occasion pour lui apporter à manger. C'était le soir où on a eu notre fameux raté au travail, vous savez. On avait passé quand même une sale journée. On a fait un 8h-19h. J'étais sur les rotules à la fin parce que mentalement, c'était dur quand même. Et je le vois et je me dis, Seigneur, faut que je le voie. Je suis allé le voir, je me suis dépêché. J'étais en retard pour mon train. En plus, je me dis, allez, des trains, il y en a encore après, zut. Hein. Donc, je lui ai donné quelque chose. Je lui ai dit, je suis désolé, je ne peux pas vous donner à chaque fois. Mais voilà, quand je peux, je vous donne quelque chose et je prie pour vous. Et je n'ai pas compris ce qu'il m'a répondu. En fait, il ne parle pas français. Donc je lui ai juste donné un petit quelque chose. Je voulais lui donner un traité sur Jésus. J'en avais un dans ma poche, Maïm l'avait donné. Et quand j'ai vu qu'il parlait pas français, je me suis dit, zut. Bon, ce sera pour une fois prochaine. Donc j'ai cru entendre un danke. Et je me suis dit, soit il est flamand, soit il est allemand. Bon. Et donc, depuis je l'ai revu quand même. Il est pas là très souvent. mais il parle allemand. Donc du coup, l'étape suivante, j'ai demandé à Jill des traités et on va y arriver. Mais oui, on peut pas sauver tous les maux du monde. Mais quand le Seigneur il nous met quelqu'un sur le cœur, il faut qu'on obéisse, il faut qu'on fasse quelque chose. C'est ce qui s'est passé dans l'église avec les gens du CADA. On est extrêmement heureux de les voir. Mais il faut pas aussi, c'est une excuse qu'on trouve facilement, moi j'ai vu dans mon cœur, donc je me dis je dois pas être le seul, se dire l'église elle fait la banque vestimentaire, hein, et puis l'église elle fait la banque alimentaire, et l'église elle fait ci, l'église elle fait là, je fais partie de l'église, donc voilà quoi. On se défausse un peu sur l'église de choses, et on les fait pas à titre personnel en fait. Rien n'empêche l'église de faire tout ça, et nous de faire d'autres choses à côté encore en plus. C'est pas un problème. Moi, ça m'a coûté quelques minutes, pas grand-chose. Et ce monsieur, il m'a dit merci, il est très content. La dernière fois que je l'ai vu, c'est pareil, il avait un grand sourire, il était content, quoi. Et ça fait du bien, je me dis merci Seigneur de ne pas l'avoir déplacé ailleurs. Voilà, il faut que je le revoie. Alors, souvenez-vous de ces passages, Matthieu 25, Ézéchiel 33. Que dit Dieu à ceux qui n'ont pas pris leurs responsabilités? Quel jugement il prononce? Alors, je vous les rappelle. Matthieu 25, c'est les versets 41 à 43. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, « Retirez-vous de moi, maudits. Allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. » Et dans Ézéchiel 33, le verset 6, « Si la sentinelle voit venir l'épée et ne sonne pas de la trompette, si le peuple n'est pas averti et que l'épée vienne enlever quelqu'un la vie, celui-ci périra à cause de son iniquité, mais je redemanderai son sang à la sentinelle. » Il y a un jugement de Dieu derrière. On a une responsabilité, on en a beaucoup. On a vu que s'occuper des brebis, ça veut dire aussi s'occuper des brebis dans l'église, mais aussi aller chercher celles qui ne sont pas encore dans l'église. Dans Ézéchiel 33, c'est annoncer le jugement de Dieu, annoncer aux gens qu'il faut se repentir, se tourner vers le Seigneur. Et là, avec Matthieu 25, on a vu de s'occuper des gens, de les aimer, en fait, tout simplement, leur donner ce qu'ils ont besoin et s'occuper d'eux. Je crois qu'on peut regrouper la plupart de ces points-là par l'idée qu'on est responsable d'aimer les autres, en fait. C'est ça, notre grande responsabilité. Et ça ne doit pas être juste une responsabilité, un poids de dire « je dois aimer les autres ». Il faut qu'on se tourne vers le Seigneur, qu'on lui demande de mettre l'amour dans nos cœurs, et après on les aimera naturellement. Ce monsieur, je vais volontiers vers lui maintenant, parce que le Seigneur a fait quelque chose dans mon cœur, et il a fallu qu'il me secoue un bon coup. Et il me dise « mais je t'ai demandé d'aller le voir, tu vas le voir ». Voilà. Donc il y a eu un ensemble qui fait que j'ai bien intégré la leçon. Le Seigneur, des fois, il ne sera pas aussi gentil que ça avec nous. Il y a un moment, il a du travail, il a des ouvriers, il affecte le travail aux ouvriers, et c'est tout. On n'est pas là pour discuter avec le Seigneur, dire « Bah non, moi, je n'ai pas envie d'aller le voir lui, je préfère aller voir un tel. » Non, mais si c'est vous qui l'a prévu pour lui, bah, vous allez le voir, c'est comme ça. Et le Seigneur, il vous reprendra, il vous y enverra, et s'il doit passer par quelqu'un d'autre, c'est une peine pour le Seigneur de dire « Celui-là, je ne peux pas lui faire confiance. » Je lui demande du travail, je lui mets une responsabilité qui n'est pas... C'est pas juste un poids, une responsabilité, hein, c'est un plaisir aussi. C'est une chance qu'on a d'être responsable pour le Seigneur devant les autres. Devant le Seigneur, responsable des autres. Vous avez compris. C'est une chance qu'on a, et si on la gâche, c'est comme si j'allais voir mon directeur maintenant, il se disait, ben, ouais, je suis chef, mais en fait, ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse pas, tu vois, vous avez qu'à donner la place à quelqu'un d'autre... J'ai pas envie de faire ce boulot-là, c'est pas... Voilà. Le Seigneur, il dit, voilà, je te mets responsable de ça, tu fais du travail, si vous le faites pas, c'est ce que vous lui dites, j'en ai rien à faire, ton truc. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. C'est les deux commandements les plus importants, on voit dans les évangiles. Il y a celui-là, qui concerne Dieu, et il y a le corollaire qu'on a lu juste avant, qui dit d'aimer les autres comme nous-mêmes. On est responsable de ça et je vous encourage à réfléchir. Il y a plein de situations concrètes où on ne fait pas attention qu'on a cette responsabilité-là. Voilà, je vais m'arrêter là. Seigneur, je te remercie pour les leçons que tu m'as données. Seigneur, des fois, tu nous secoues, Seigneur, et c'est avec justesse que tu le fais. Merci parce que tu secoues quand même avec douceur, Seigneur. Ça pourrait faire bien plus mal et... Seigneur, il y a juste la honte de se dire qu'on a désobéi et qu'on était à côté de ta volonté. Et je te prie, Seigneur, pour chacun d'entre nous, que tu nous montres concrètement chaque jour de quoi on est responsable, Seigneur, ce que tu nous as donné. Merci, Seigneur, parce que tu nous donnes des brebis, tu mets des gens sur notre chemin et tu comptes sur nous pour les amener à toi. On te prie d'agir dans nos cœurs, Seigneur, pour qu'on soit plus disciplinés et surtout, Seigneur, qu'on soit plein d'amour envers les autres. Merci, Seigneur, de ton amour envers nous, de ce que tu ne te décourages pas et, Seigneur, de ce que tu nous rejettes pas à force de nos désobéissances, Seigneur. Merci, Seigneur. Amen.